Bonjour, c'est le cast de Grug, un streetcast où je vous parle de dessin, d'application, de bande dessinée, de tas de choses. Aujourd'hui, on va parler bande dessinée, on va parler d'Angoulême. Angoulême, c'est le grand festival de la bande dessinée, le festival international de la bande dessinée, qui élit chaque année un grand prix. Le grand prix, il est élu par des auteurs de BD. Donc on compte qu'il y a à peu près 3000 auteurs de BD en France. Il y en a à peu près qui ont publié un truc dans les 2-3 ans, enfin déclaré par leur éditeur comme auteur pouvant voter. Il y en a 1600, 1700. Il y a à peu près 3000 personnes qui font de la BD en France. Des auteurs, il y a d'autres types d'auteurs, évidemment. Il y a des auteurs de livres, il y a des auteurs d'illustrations, il y a des auteurs de tas de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Angoulême, c'est le moment où les médias parlent de bande dessinée. C'est le moment dans l'année où les projecteurs sont mis sur la bande dessinée. C'est l'occasion, par exemple, pour les auteurs de faire entendre quelques soucis qui agitent la profession d'auteur, depuis quelques années surtout, avec des augmentations de taux de cotisation, des changements de régime. Tout un tas de choses qui font que ça inquiète. Le secteur de la bande dessinée, c'est un secteur qui va plutôt bien, les ventes montent, et les revenus de tout le monde montent, sauf les revenus des auteurs qui baissent, où il y a une précarisation des auteurs. Voilà, on compte que sur 200 auteurs qui vont dédicacer à Angoulême, il y en a 150 qui sont au RSA, c'est-à-dire au seuil de pauvreté, ou en dessous. Voilà, c'est des problèmes structurels sur lesquels les auteurs, cette année à l'occasion d'Angoulême, ont essayé d'attirer l'attention des médias là-dessus. Parce que comme tout le monde, il y a une négociation du régime de retraite. Depuis quelques années, les auteurs se sont constitués en syndicats. Il y a des négociations qui font que le régime de retraite va... Bref, il y a des compensations. Le principe, en fait, des cotisations, par exemple, des cotisations sociales des auteurs. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est assez simple, en fait. Les auteurs payent un peu leur part, comme un peu un employé paye sur sa fiche de paye sa part. Et logiquement, les éditeurs... Les diffuseurs devraient payer l'autre part. Ça, c'est ce qui avait été négocié il y a 50 ans. C'est le 1% diffuseur. Donc, chaque fois qu'on a un client en illustration ou en bande dessinée, on doit lui dire bah, en fait, tu dois payer 1% au fisc. Bon, en général, c'est pas toujours fait. Faut être clair, c'est de la paperasse, ça dépend de la taille du client, les éditeurs devraient le faire, et surtout ce 1% aurait dû monter jusqu'à 8-10%, enfin comme des cotisations patronales, et ça n'a jamais été fait. Et donc là, avec toutes les réformes de retraite, pas celle-là, déjà la précédente, et de statut, etc., on se retrouve à cotiser finalement tiers ou qu'une moitié de ce qu'on cotise à un salarié normal, et donc il faut trouver des systèmes de compensation. On discute aussi de rémunérer certaines séances de dédicaces. Quand un auteur est en dédicace, il passe sa journée, son week-end en dédicace, il n'est pas payé pour être là. Sur un livre vendu, il faut savoir que sur une BD classique, l'ensemble des auteurs du livre, bouquin à 10 euros, touche 80 centimes à peu près. Donc imaginez un festival un dimanche, on vend 10, 20, 30 bouquins. 30 bouquins, c'est un bon festival. Voilà, on a rentré, ou plutôt remboursé à son éditeur, 24 euros. C'est pas le prix d'une journée. Donc il y a des tas de négociations comme ça qui ont été en plus mises en lumière. Là, il y a eu un rapport commandé par le gouvernement sur la situation des auteurs, donc particulièrement les auteurs de BD, mais aussi d'autres auteurs de livres. Et ce rapport, le rapport Racine, qui est un rapport très sérieux, préconise 25 trucs pour les auteurs. Donc les auteurs considèrent que c'est plutôt un rapport qui leur est favorable, parce qu'effectivement, ça préconise des solutions pour essayer de lutter contre la précarisation des auteurs, pour essayer de pérenniser ce statut, parce que les auteurs, par exemple, sont en discussion avec les éditeurs. Le syndicat national des éditeurs, lui, considère qu'il n'y a pas de problème, que le secteur du livre va plutôt bien et que structurellement, améliorer la situation des auteurs reviendrait à dégrader la situation des éditeurs. Arguant que sur un bouquin, quand un auteur de BD, par exemple, touche 12 000 euros, mais un BD, ça représente à peu près un an de travail, l'éditeur, lui, n'en touche que 11 000. Sauf que je ne suis pas sûr qu'un éditeur bosse un an entier sur un bouquin. Voilà, des choses comme ça. Donc le syndicat national des éditeurs, qui est présidé par le patron de Média Participation. Média Participation, c'est un grand groupe de presse, d'édition, qui, par exemple, dans la BD, reprend les plus gros éditeurs, genre Dargaud, Lombard, Dupuis, je crois. Voilà, c'est un truc énorme. Et donc, qui veut absolument entendre parler de rien, qui veut pas que l'État foute son nez là-dedans. Voilà, l'État a l'air prêt à faire des compensations, au moins des aménagements. Alors, on parle pas de régime spécial, mais d'aménagements pour le statut des auteurs, en fonction du rapport Racine que vous pouvez trouver sur Internet. Un des grands débats a été de le publier avant Angoulême, où il y a une visibilité. Donc après, il y a un autre truc qui est sorti dans la presse là, c'est que les AGSA, qui était l'un des deux organismes chargés de collecter les droits d'auteur. AGSA, c'est U pour les auteurs qui font uniquement des droits d'auteur. Et il y a la Maison des artistes, c'est plus pour les peintres et les illustrateurs qui font des cornes et des droits d'auteur. Après, on a un statut dessus, on a l'autre, selon là où on a commencé, selon la majorité de nos revenus. Mais c'est à peu près pareil. Et donc les AGSA qui, depuis donc 40 ans, en gros, n'a pas réclamé ni payé les cotisations retraite, ou les a pas provisionnées, je sais pas. Toujours est-il que il y a des tas d'auteurs qui ont cotisé, qui ont cru cotiser pendant des années pour leur retraite, et qui se retrouvent là, arrivant à la retraite, et on leur dit, bah non, vous avez pas cotisé. Ça, par exemple, c'est un problème, il va falloir trouver une solution, parce qu'il y a des gens quand même qui ont 10 ans, 20 ans de cotisation qui sont pas là, qui n'existent pas. Donc il y a des auteurs de BD qui se retrouvent à la retraite avec des retraites de 225 €, j'ai lu comme ci. Voilà, ça c'est un des problèmes. Donc il y a des tas de problèmes comme ça à discuter, et Angoulême est l'occasion de porter la voix des auteurs, parce que c'est le moment où les projecteurs sont braqués sur la bande dessinée. Mais la bande dessinée, c'est aussi plein d'autres trucs, et surtout pas que des problèmes. Le problème des auteurs, c'est bien, mais enfin, c'est aussi surtout du plaisir. Là, sur Angoulême, il y a un deuxième truc. C'est hier, on est vendredi aujourd'hui, donc hier, le président de la République française est allé à Angoulême. Il a remis un prix, je sais pas quoi, etc. Surtout, il a déjeuné avec des auteurs, beaucoup d'auteurs qui ont refusé, en fait, de déjeuner avec lui. Mais il a déjeuné avec quelques auteurs, dont des auteurs d'importance. Il devait y avoir Lewis Trondheim, il y avait Jules, qui avait déjà voyagé avec lui, d'ailleurs. Jules, qui est un dessinateur de presse, auteur de BD, qui a fait la série, dont la série est animée, par exemple, c'est sur Arte, qui s'appelle Silex in the City. Il a dû scénariser des Lucky Luke aussi. Il avait été pressenti pour scénariser les Astérix. D'ailleurs, la fille de Goscinny a dit que si le scénariste actuel d'Astérix décidait d'arrêter, bah, ça serait lui qui reprendrait. Il fait une sorte de concours et il est arrivé à deuxième, du coup. Dessinateur avec beaucoup d'humour. Et donc, il a fait poser le président Macron avec un t-shirt. Photo qui fait un peu scandale parce que c'est un t-shirt qui détourne le logo de BD 2020. Parce que 2020, c'est l'année de la BD. Ça, peut-être que le saviez-vous pas. En tout cas, c'est ça. Donc, il va y avoir des tas d'expositions, des tas de choses. Donc, c'est aussi pour ça que les auteurs se manifestent particulièrement. Et donc Jules a fait poser le président de la République avec un t-shirt détournant le logo de l'année de la BD qui représente le fauve d'Angoulême avec marqué BD 2020. En fait, il a été détourné par un autre dessinateur qui s'appelle Loïc Sécheresse qui lui a mis un sparadrap sur l'œil et qui a rajouté un L devant BD. Ça fait donc LBD 2020. Donc ça fait allusion au LBD qui est l'arme de lancer de balles des policiers. Gros yeux crevés de manifestants, gilets jaunes, etc. Voilà, donc forcément, ça fait scandale. Là, si vous ouvrez la presse, vous devriez trouver à peu près les réactions. Le président de la République a dit comment il n'était pas du tout d'accord avec les dessinateurs de BD sur le sujet, que la violence n'était pas là, mais que c'était la grandeur qu'on était dans un pays libre parce que le président de la République pouvait poser avec un t-shirt avec lequel il n'était pas d'accord. Donc ça fait un petit peu de bruit. Donc je vous laisse juste une photo qui tourne sur les réseaux. C'est assez amusant. C'est une action un petit peu politique. Pas grand-chose à voir avec le statut des auteurs, mais qui fait partie on va dire, c'est là qu'est le privilège des auteurs de BD, c'est que comme on n'est jamais pris au sérieux, on peut se permettre des choses, le avantage de... Donc Angoulême, le grand festival, donc qui date de 1974, et donc chaque année, à Angoulême, on élit un grand prix. Le Grand Prix d'Angoulême, qui a été élu d'abord par un collège d'experts, et puis voilà, et puis finalement, depuis quelques années, ça doit être 2016, 2015, 2014, je ne sais plus, force de ne pas avoir de femmes nominées pour le Grand Prix, il a été décidé que ça serait les auteurs qui voteraient. Par exemple, l'an dernier, l'autrice japonaise du manga Ramna Emi, j'ai pas son nom là, qui avait gagné le Grand Prix pour l'ensemble de son œuvre, et cette année, c'est... Donc ça se passe en deux tours, c'est d'abord on vote pour qui on veut, n'importe quel auteur qui a publié des BD, trois fois, trois auteurs, et à la fin, il y a une sélection de trois auteurs, un deuxième tour, et on choisit parmi les auteurs. Et donc là, cette année, donc, l'auteur qui a remporté ce Grand Prix, alors le Grand Prix, c'est quand même vraiment l'équivalent du... Ah, c'est mieux qu'un Oscar ou qu'une Palme d'Or, hein. C'est le Nobel, quoi. Le Grand Prix d'Angoulême, c'est le Nobel pour l'ensemble de sa carrière, quoi. C'est un truc énorme. Et cette année, c'est Emmanuel Guibert. Emmanuel Guibert, c'est un auteur, je sais pas, tout le monde connaît peut-être pas, mais certains connaissent. Il a eu quelques succès. Il avait fait, début des années 2000, une BD qui s'appelait Le Photographe, d'après des photos d'un photographe qui était allé en Afghanistan. Ça, c'était assez intéressant. Il avait dessiné aussi ce scénario de Johan Sfar, je crois. Les Olives Noires, une petite série en trois qui a marqué la plus les fans de BD. Une série inachevée, mais assez drôle, en trois tomes avec un très très beau dessin, très classique. Il a aussi fait Gardalan. La Gardalan, c'est une série de livres en noir et blanc où il a rencontré un ancien soldat américain qui raconte sa guerre. C'est très beau, c'est des noirs et blancs, des espèces de lèvres. Très très beau, c'est vraiment que du dessin, c'est vraiment un très très bon dessinateur. Et c'est aussi un scénariste. Il a scénarisé deux séries pour enfants qui ont fait des hits. La première, c'est Les Sardines de l'espace, où il a fait le scénario et c'est Johan Sfar qui a fait le dessin. Ça c'est assez rare, en général Johan Sfar fait un peu tout et souvent des scénarios. Mais là, voilà, Les Sardines de l'espace, et puis Johan Sfar a abandonné, et puis il a repris lui-même le dessin, Emmanuel Guibert, et puis après il l'a fait avec d'autres dessinateurs. Et une série qui a encore plus marché que ça, où il fait plus le scénariste, et qui est dessiné par Marc Boutavant, c'est Ariol. Ariol, c'est un petit âne, tous les enfants connaissent, tous les enfants entre 5 et entre 5 et 10 ans connaissent Ariol. 4 et 10 ans, je sais pas, j'ai plus de notion. Voilà, c'est vraiment un truc énorme, c'est mignon, c'est les petites histoires avec un âne, les petits problèmes d'un enfant, quoi. D'un enfant, c'est un petit âne. C'est très très chouette. Voilà, donc scénariste, dessinateur de quelques séries qui ont rencontré une certaine estime, mais vraiment en plus un excellent dessinateur. Et ça fait plusieurs années qu'il est dans les 3 finalistes pour le prix, en fait, depuis que les auteurs votent. Il est toujours dans les finalistes. Cette année, il l'a eu. Alors ça tombe bien, c'est pour lui que j'avais voté. Les autres finalistes n'étaient pas inintéressants. Il y avait Chris Ware, dessinateur américain, très 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 intéressant, des trucs un peu années 50, très très à la règle. Jimmy Corrigan, un peu autiste dans l'histoire, mais vraiment d'une précision. J'avais vu une expo de lui à Lyon il y a quelques années au MAC, enfin où il y avait des planches de lui, c'était des grandes planches, enfin vraiment un très beau travail. Et Catherine Meurice qui est nominée, Catherine Meurice c'est une dessinatrice, elle a travaillé à Charlie Hebdo, elle a travaillé dans la presse, elle a fait beaucoup de dessins de presse, elle a fait des BD là, donc évidemment depuis 4 ans, 5 ans, depuis 2015, elle fait partie avec plus des survivants, quoi, des auteurs qui ont une... c'est quoi ce mot à la mode là d'ailleurs qui m'agace tout le temps là. Bref, qui doivent puiser dans leurs ressources pour accepter leur statut de qu'ils ont échappé quand même, qu'ils ont failli se faire tuer juste parce qu'ils faisaient des dessins aux attentats de Charlie Hebdo. Et donc elle fait des bouquins un peu plus personnels, un peu plus très très jolis. Elle a fait aussi des bouquins sur des artistes. C'est un dessin assez lâché, assez à la Sampé, c'est vraiment un auteur de grand talent. Donc ça, c'était le Grand Prix d'Angoulême. Après, Angoulême, c'est une immense foire à la dédicace. Ça, je me souviens, moi, j'y suis allé il y a assez longtemps. Alors là, je n'y vais pas, moi, parce que Angoulême, c'est un festival où... C'est pas le festival qui invite des auteurs, c'est les éditeurs qui invitent leurs auteurs. En fait, c'est les auteurs qui ont des nouveautés et qui ont des nouveautés capables de séduire un public bande dessinée. Donc chaque année, j'ai des copains qui y vont. Moi, j'y vais pas. J'attends d'être invité. J'ai des copains qui vont aussi parce qu'ils veulent y aller. C'est les gros festivals comme ça. C'est le moment de faire des rencontres. C'est le moment de rencontrer des éditeurs. C'est le moment de faire des projets. Angoulême, c'est tellement gros qu'en fait, tout ça, ça se noie. C'est un endroit où les gens passent leur temps à dire on se voit tout à l'heure et on se voit pas. Il y a d'autres festivals assez gros qui sont plus conviviales pour ça, qui marchent bien. Je pense à Saint-Malo, je pense à Blois, je pense à Amiens, ça a disparu. Je pense à Lyon, bêtement, voilà. Sur lequel je suis pas objectif parce que j'ai mes entrées. Un festival où il y a plus le temps de se rencontrer. Je vous ai fait un petit panorama un petit peu dans le désordre de la BD, donc vous avez une petite idée des problèmes des auteurs, enfin en tout cas l'idée qu'il y a des problèmes. Vous avez une petite explication sur cette photo qui tourne sur les réseaux sociaux et vous avez un petit panorama du Grand Prix d'Angoulême. Je vous dis à la semaine prochaine, retrouvez-moi sur le réseau, Grug, laissez-moi des étoiles 5 sur iTunes, Apple Podcast, histoire de faire découvrir un petit peu de podcast. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. C'était Grug.